Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette édition de Géopolitique consacrée à l'État islamique et la coalition internationale formée il y a tout juste un an pour contrer l'expansion des djihadistes en Syrie et en Irak. La semaine a été marquée par le revirement français, François Hollande annonçant que les avions français engagés dans la coalition internationale anti-djihadiste interviendraient désormais en Syrie alors que leur périmètre d'action se limitait jusque-là à l'Irak. Virage diplomatique, la France se range peu à peu à la position des États-Unis et des Russes et rompt avec 4 ans d'intransigeance avec Bachar al-Assad. Pour cette édition de Géopolitique réalisée en partenariat avec la revue Questions internationales de la documentation française, nos invités, Myriam Benrad, chercheuse spécialiste de l'Irak et du Moyen-Orient aux séries Sciences Po, à l'Institut de recherche et d'études sur le monde arabe et musulman, ainsi qu'à la Fondation pour la recherche stratégique. Bonjour.
Bonjour.
Jean-François Daguzan, directeur adjoint de la Fondation pour la recherche stratégique, professeur associé à l'Université Paris Panthéon Assas et directeur de la revue Maghreb Mashrek. Bonjour.
Bonjour.
Et Serge Sûr, professeur émérite à l'Université Panthéon Assas, directeur du Centre Thucydide d'analyse et recherche en relations internationales et rédacteur en chef de la revue Questions internationales, dont le dernier numéro a pour titre « Les nouveaux espaces du djihadisme, menaces et réalités ». Action. Bonjour.
Bonjour.
Voici donc un an que l'opération Détermination absolue a été lancée par les États-Unis contre l'État islamique, suivie par 21 autres pays. L'opération ne vise pas à détruire Daesh, mais à le contenir. C'est un procédé indirect marqué par l'absence de troupes au sol et l'utilisation d'acteurs locaux. Le résultat, c'est une opération particulièrement complexe qui, à ce jour, n'a pas été concluante. Daesh est toujours sur pied. Non seulement son cœur géographique n'a pas été touché, mais il a obtenu 2 victoires importantes à Palmyre et à Ramadi. Est-ce qu'il faut s'étonner de cette situation ? Serge Sûr, vous trouvez-vous que les relations internationales depuis ces 25 dernières années avec la chute du mur de Berlin, la réunification allemande, etc., ont beaucoup changé ?
Oui, sans s'appesantir sur ces 25 dernières années, il faut tout de même observer que, avec la chute du mur de Berlin en 1989, on avait le sentiment qu'il y avait un zénith des relations internationales, une mondialisation heureuse, une longue période de paix qui s'ouvrait. C'était un petit peu l'aspiration de l'époque. Et 25 ans après, on constate que c'était un peu une illusion et que on est plutôt au nadir maintenant des relations internationales, puisque la crise syro-irakienne, l'apparition de Daesh, semble aller exactement en sens contraire. Et dans les deux cas, la situation n'a pas été véritablement maîtrisée. Elle n'a pas débouché sur une gouvernance mondiale. Les événements des années 89-90 ont été canalisés par les États, mais ils sont très largement le fruit de la dynamique des sociétés civiles. Et aujourd'hui, on constate que cette dynamique des sociétés civiles, avec le terrorisme, avec les migrations, eh bien, elle est absolument à l'inverse de ce qu'elle était il y a 25 ans. Et nous sommes revenus à un cours des relations internationales qui est plus classique dans l'histoire, qui comporte une dimension de chaos, une dimension de conflit, avec cette nouveauté tout de même que nous avons une entité qui aspire à être un État, mais qui n'est pas un État, je parle de Daesh, et on pourrait être tenté de faire une comparaison entre ce conflit et puis celui qui a existé en 90-91 avec le Koweït, l'annexion du Koweït par l'Irak, l'intervention d'une coalition, mais la situation était très différente, puisque d'une part les Nations Unies étaient impliquées dans cette affaire, il y avait une décision du Conseil de sécurité, que d'autre part c'était un État classique que l'on combattait, et qu'on a combattu assez rapidement avec succès. Tandis que là, nous sommes dans une situation que personne ne maîtrise et j'ajouterais que personne ne semble vouloir maîtriser.
Alors ça, c'est une question en débat. Myriam Benrad, d'une situation que personne ne semble vouloir maîtriser, la question de la lutte contre Daesh, un an après donc la mise sur pied de cette coalition. Je le disais en introduction, un bilan plutôt mitigé avec l'État islamique qui est toujours sur pied, mais dont le cœur géographique n'a pas été touché et qui a obtenu tout récemment 2 victoires importantes à Palmyre et à Ramadi. Est-ce que il faut s'en étonner et comment finalement comprendre de cette résilience?
Je vais vous répondre en faisant référence à l'article que j'ai écrit justement pour ce numéro spécial dirigé par Monsieur Sûr. Cet article, c'est l'objet de ma thèse de doctorat, les sunnites. Il faut bien comprendre de quoi tout cela part. Alors évidemment, il y a le contexte des 25 dernières années, mais il y a le contexte irakien et cette occupation américaine qui a été complètement désastreuse. Aujourd'hui, ce à quoi on assiste, parce que bon, Daesh depuis s'est exporté vers d'autres terrains, a des aspirations globales, bon, dans l'euphorie de ses victoires au Moyen-Orient, mais à l'origine, c'est tout de même grosso modo une sécession sunnite, cette affaire, de ces mêmes sunnites qu'on a laissés donc en marge de la transition, de la dite transition initiée par les Américains avec l'appui d'un certain nombre d'anciens opposants majoritairement chiites et kurdes. Donc on a des phénomènes aujourd'hui sécessionnistes, mais d'ailleurs qui ne sont pas exclusivement propres à la communauté sunnite, qui commencent, bon, il y a le cas des Kurdes évidemment, mais qui commencent aussi un peu à prendre corps du côté chiite face à, comme Serge Sur l'a très bien dit, la faillite des États, une faillite en fait qui aussi s'inscrit dans le temps plus historique, parce que l'agonie des États postcoloniaux, elle a commencé en fait très tôt. Dans le cas de l'Irak, évidemment, l'ère bassiste a totalement détruit la société irakienne, et sous couvert de triomphalisme guerrier de la part de Saddam Hussein, en réalité l'Irak était en phase mortifère depuis les années 80. Donc cette situation, elle est difficilement réversible pour plusieurs raisons. D'une part, parce qu'on a actuellement, en tout cas si on prend le cas de l'Irak, un gouvernement qui n'est pas disposé à consentir les efforts qui s'imposent. Alors les efforts, c'est pas seulement mettre un ou deux sunnites dans le gouvernement et faire de l'inclusivité. J'avais déjà dit, je crois, dans votre émission, que l'inclusivité est une notion qui ne veut strictement rien dire dans la région. Donc arrêtons aussi de donner dans les catégories orientalistes qui ne signifient rien. La réalité, en fait, c'est qu'on a eu une débassification. On a un personnel bassiste des services de renseignement, d'anciens officiers de cette armée irakienne qui a été démantelée, qui aujourd'hui sont dans les rangs de l'État islamique. Il faudra un moment ou un autre penser à des moyens de démobiliser ces gens et de les ramener vers l'État irakien.
Leur nombre, Myriam Benrad?
Bah, écoutez, alors, le nombre de l'avant-garde irakienne, je vais pas vous dire, ils sont plusieurs milliers. Après, les combattants, on sait que c'est entre 15 000, 30 000 combattants. Les chiffres, en fait, sont très, très, variés. La CIA estime ça entre 15 et 30 000 combattants. Mais cette avant-garde irakienne, en fait, il faudra en faire quelque chose. Mmh. Il faudra négocier. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, quand on parle de cela, c'est-à-dire, eh bien, une forme de retour, hein, des bassistes dans le jeu, parce que c'est eux, l'avant-garde du groupe. Bagdad ne veut pas en entendre parler. Bon, très bien, mais si vous voulez, je crois qu'il faut reprendre les choses à zéro, en tout cas sur le terrain irakien. Le problème étant, comme j'ai dit, c'est que ce pourrissement aujourd'hui, eh bien, effectivement, s'est étendu à la Syrie. La Syrie est un terrain aussi complexe que l'Irak. S'est étendu à la Libye. Donc, on est dans une situation où malheureusement, il va falloir faire de la gestion sans résultat véritablement satisfaisant dans le court terme, ça qu'on soit clair, et avec des intérêts très divergents de la part des acteurs locaux, de la part des acteurs régionaux, et puis ce grand jeu international qui est en train de se mettre en place, qui rend les choses aussi complexes. Donc l'idée, si vous voulez, en tout cas, c'est qu'il n'y aura pas de solution magique dans le court terme. On est parti pour des années de guerre, et les Américains eux-mêmes le reconnaissent, une génération ou plus. Il n'est pas anodin que le directeur de la CIA, John Brennan, le dise publiquement. Enfin, c'est quand même pas quelque chose de très habituel que de voir le directeur de la CIA admettre qu'on est parti pour une génération de guerre.
Alors, à vous entendre, Myriam Benrad, je vais vous demander de réagir, Jean-François Daguzon. Donc, on est parti sur plusieurs années de guerre, et ça, je pense qu'il y a une certaine unanimité autour de tout cela. Donc, finalement, pas de quoi s'étonner un an après la mise sur pied de cette coalition lancée par les États-Unis, suivie par 21 autres pays, de voir que, bon, voilà, le bilan n'a pas été évidemment concluant. Alors, j'aimerais qu'on s'arrête quelques instants sur le type même de l'opération et la façon dont cette coalition intervient. Il n'est pas question pour l'instant d'avoir des troupes sur le terrain. C'est donc en faisant appel à des acteurs locaux que les Américains entendent lutter contre Daesh. Et ce qu'évoquait à l'instant Myriam Benrad, le problème, c'est à la fois le gouvernement à Bagdad et le gouvernement à Damas.
Alors, je crois que la grande difficulté qu'il faut essayer de déchiffrer pour les auditeurs, c'est que vous avez autour de la question syrienne et irakienne un ensemble de positions contradictoires, y compris dans les gens qui construisent l'alliance qui est censée résoudre les deux problèmes à la fois. Vous avez la question des États du Golfe qui jouent la carte sunnite et qui donc veulent préserver l'avenir en ne tapant pas trop fort sur des populations qui se retourneraient éventuellement contre des vainqueurs potentiels d'une part. Vous avez l'Iran qui joue un rôle majeur désormais dans la défense de l'Iran chiite, mais qui évidemment ne contribue pas à créer une situation d'inclusivité inversée, on va dire, ou qui crée une situation d'inclusivité inversée par le fait que quand les milices chiites soutenues par l'Iran passent à l'action, elles massacrent des sunnites
entre autres, et de façon significative. Vous avez la coalition internationale qui ne sait pas sur quel pied danser, enfin les Occidentaux, puisque d'un côté les Américains, enfin même si on va sur plus d'approche collective avec le revirement de la France et l'acceptation des frappes en Syrie. Et vous avez en réalité aussi des choix stratégiques qui regardent ailleurs. Aujourd'hui, où sont en train de se déployer les forces terrestres du Golfe au Yémen ? Et non pas en Syrie, en Irak, ce qui aurait pu être fait au moins un an plus tôt.
Donc à la base opposée de la péninsule arabique.
Voilà, on voit très bien que le souci des monarchies sunnites aujourd'hui, c'est la question yéménite et pas la question syro-irakienne. Donc on voit très bien qu'à partir du moment où vous avez des acteurs qui tapent dans toutes les directions et pas sur le noyau central que représente l'État islamique sur les deux frontières, on a un véritable problème. On a essayé de régler le problème, je dirais, sur le modèle de Nartes, c'est-à-dire un faux semblant, qui est de dire on va faire des frappes aériennes. Dans l'histoire de la guerre, à partir de l'invention de l'aviation, on va dire, aucune attaque aérienne n'a conduit à un règlement du conflit. On l'a vu avec le Vietnam, quand les Américains ont voulu casser la volonté du Vietnam du Nord, ça n'a donné aucun résultat. Et même, je dirais, les grands bombardements de la Deuxième Guerre mondiale n'ont pas réussi à faire fléchir la volonté allemande. Ça n'a jamais marché. Le seul cas que nous connaissons, c'est le Kosovo. Pourquoi ? Parce que là, on a brisé la volonté de l'État yougoslave en détruisant ses infrastructures. C'est un cas unique, exceptionnel. Il ne peut pas être reconduit. Donc aujourd'hui, nous avons une situation où, effectivement, puisqu'il s'agit de faire quelque chose, on fait une action de gesticulation, comme on dit dans le domaine militaire, mais qui à aucun moment ne peut résoudre la vraie problématique qui est d'intervenir sur le terrain avec des troupes en nombre suffisant pour détruire effectivement l'État islamique. Alors, voilà la question de fond.
Vous écoutez Géopolitique.
Alors de la gesticulation, et juste pour nos auditeurs, j'ai trouvé en préparant cette émission des chiffres absolument extraordinaires au sens mauvais du terme, les frappes aériennes et leur coût. Frapper un objectif en Syrie ou en Irak coûte 300 000 $, et tuer un seul combattant ennemi coûte 175 000 $. Alors la question qui se pose, Jean-François Daguzan, vous parlez de gesticulation, et je me tourne vers vous, Serge Sûr, si on poursuit avec ce que vous qualifiez de gesticulation, il est évident que les choses ne vont pas avancer beaucoup. Se pose la question de savoir si oui ou non il faut mettre des troupes au sol. Les Américains n'y sont pas prêts, ça je suis.
Oui, je reprends votre question. Il faut ou il faudrait, mais on ne peut pas. On ne le fera pas. Les États-Unis ne le veulent pas, parce qu'il faut tout de même se souvenir que nous sommes dans une temporalité longue. Et si on prend le conflit afghan, l'intervention américaine a été loin d'être un succès. Et depuis 15 ans, on ne peut pas dire que des progrès décisifs aient été accomplis. Et d'ailleurs, pour ce qui concerne l'Afghanistan, le problème remontait à l'intervention soviétique, donc à 79, ça fait plus de 40 ans, 35 ans. Et c'est un petit peu la même chose pour l'Irak. Voilà 25 ans qu'a eu lieu la première intervention. Et on ne peut pas dire que les résultats militaires aient été brillants, aient été décisifs. Cette logique militaire n'a pas fonctionné. Et donc, aujourd'hui, on en tire les leçons. On ne va pas recommencer. Les opinions publiques ne l'accepteraient pas. Les pertes risqueraient d'être considérables. En plus, on n'a pas résolu le modèle stratégique. Parce que il n'y a pas de front, il n'y a pas d'ennemi. Alors, j'entends bien que Daesh contrôle des territoires et qu'on peut résorber cette occupation. Mais on ne fera pas disparaître les combattants. Ils se fondront dans la population. On aura affaire à des soldats fantômes, à des attaques nocturnes, à des attentats suicides, des bombes improvisées. Donc, on ne sortira pas de cette situation, de ce guépier militaire. Et je crois que la sagesse est effectivement de ne pas aller sur ce terrain. J'ajoute qu'il y a aussi des problèmes juridiques qu'il ne faut pas oublier. Il n'y a pas de résolution du Conseil de sécurité. Et un pays comme la France a toujours eu comme doctrine, en tout cas au cours des décennies récentes, qu'il n'y avait pas d'intervention extérieure sans autorisation du Conseil de sécurité. J'observe au passage d'ailleurs que les vols de surveillance, de reconnaissance et éventuellement les frappes en Syrie ne seront pas fondés sur une autorisation du Conseil de sécurité et que la France, par rapport à ce changement de position, n'a pas encore formulé une doctrine juridique. Alors elle peut le faire, elle va sans doute le faire au nom de la légitime défense. C'est parfaitement juridiquement fondé de dire que nous sommes en légitime défense dans la mesure où un certain nombre d'attentats qui se sont produits en France ou contre des intérêts français l'ont été à partir de la Syrie. Et les précédents de la conduite américaine notamment, et même du Conseil de sécurité avec la résolution 1368 du 12 septembre 2001, autorisent ce type de comportement. Mais donc je note quand même que la France considérait que la légitime défense ne s'exerçait qu'à l'encontre des États. Et là, elle accepte de l'exercer à l'encontre d'acteurs non étatiques. Ça, c'est une nouveauté.
Donc l'annonce a été faite par la France, mais reste à en déterminer le cadre juridique. Myriam Benrad, je me tourne vers vous. Qu'est-ce que l'on peut dire aujourd'hui? D'abord, peut-être vous souhaitez réagir sur la question de l'intervention, les Américains.
Écoutez, moi, j'étais contre la guerre d'Irak, contre la guerre de Libye. L'interventionnisme militaire occidental, pour suivre ce qui vient d'être dit, a été catastrophique, parce qu'il ne s'est pas accompagné. Alors, il y a des considérations idéologiques qui étaient déconnectées du terrain. Et puis surtout, après, rien ne s'est passé en Irak. Paul Bremer a démantelé l'armée, débassifié en provoquant l'effondrement de l'État irakien. Bon, on va pas revenir sur toutes ces étapes qui ont été catastrophiques, parce qu'en réalité, la guerre a été perdue dès 2003. La Libye, ça a été plus ou moins le même schéma. On renverse un tyran, mais derrière, rien, aucun plan de transition réel, sérieux, avec des missions d'assistance, enfin une implication réelle pour aider ces sociétés à aller vers autre chose que la violence. Parce que, attention, quand on parle de tyrannie et de violence aujourd'hui, ce n'est que le pendant de ce qui a précédé. Le problème, enfin, j'entends votre argument, mais je crois que aujourd'hui, on est dans une impasse militariste, qu'on le veuille ou non. Ces guerres, ces fronts, l'Afghanistan, l'Irak, la Libye et aujourd'hui la Syrie, on est dans une impasse. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait rien. Moi, je ne pense pas que ce soit la solution. Ce qui ne veut pas dire qu'on repart dans une logique d'occupation, d'envoi de troupes de combat, etc. Mais entre ne rien faire et, si vous voulez, une nouvelle mission militaire qui serait désastreuse, parce que de fait, ce serait perçu comme une occupation, il y a quand même un entre-deux. Alors, l'entre-deux, c'est quoi? C'est les forces spéciales. C'est, encore une fois, l'appui aux acteurs locaux. Et là, je reviens sur le terrain. Sur le terrain, c'est pas simplement une foule de djihadistes. Sur le terrain, il y a une diversité d'acteurs, dont certains qui, depuis un an, sont prêts à lutter contre les djihadistes, pour protéger leur famille, leur communauté, leur quartier, leur ville, qui demandent des armes de toute urgence pour pouvoir aller mener le combat. Ces gens ont été méprisés. Donc ça fait un an qu'on nous dit qu'effectivement il y aura une forme de mobilisation pan-arabe pour sauver la Syrie et l'Irak.
Méprisés, c'est quoi, Myriam
Benrad? Méprisés, c'est qu'ils ne reçoivent pas d'armes. Concrètement, les armes ont été livrées à Bagdad au gouvernement irakien, qui s'était engagé auprès des Américains à faire passer ces armes dans les territoires, notamment par exemple à la province d'Al-Anbar, où les dignitaires, les tribus et un certain nombre de groupes d'autodéfense, dont d'anciens officiers, ont dit « on est prêt à faire le job, mais on a besoin d'armes », ça fait un an et rien n'a été livré. Donc ça pose la question de nos partenaires, c'est bien de faire des conférences à Paris avec nos soi-disant partenaires qui n'en sont pas, à mon avis, parce qu'encore une fois, le job n'est pas fait. Et quand je dis le job, c'était de livrer les armes, puisque Obama veut avoir comme interlocuteur le gouvernement irakien, donc Bagdad. Très bien, mais il n'y a pas eu de livraison d'armes. Si bien, je continue en mes exemples très concrets, parce qu'il ne faut pas non plus faire que des éléments de langage ici. Si bien que les tribus qui cherchent des armes, elles vont au marché noir les acheter pour plusieurs dizaines de milliers de dollars. L'armée elle-même est impliquée dans ce trafic, puisqu'elle remet les armes au marché noir. On sait que c'est une armée corrompue, gangrénée, etc. Donc il y a un problème institutionnel aussi très clair. Et donc j'ai publié une tribune dans Le Monde où je dis, encore une fois, on essaie de réfléchir à des solutions, il n'y aura pas de magie dans tout ça, mais aujourd'hui il faut un recentrage sur la sphère locale, parce qu'un mieux ou un début de mieux ne viendra ni du gouvernement irakien ni du régime de Damas, qu'on se le dise, ça ne viendra pas non plus d'une forme de passivité face à l'État islamique, parce que ce groupe ne s'arrêtera pas là, qu'on se le dise aussi. Donc il n'y aura pas, si vous voulez, une coexistence pacifique entre d'un côté l'Occident et puis les djihadistes, qui finalement laisseraient tout le monde tranquille à partir du moment où on reconnaîtrait leur califat, parce que c'est plus ou moins aussi ce qu'on entend dans certains cercles, c'est une illusion. Le mieux aujourd'hui, c'est recentrage sur la sphère locale et prise vraiment de position claire à l'égard des acteurs qui, depuis des mois, et j'insiste, parce qu'encore une fois, ce n'est pas un océan simplement de djihadistes. Il y a encore des éléments de société civile qui sont prêts à combattre. Il y a énormément de cynisme, on l'a vu avec la manière dont les États-Unis ont lâché leurs partenaires kurdes. On ne peut plus se permettre, mais si vous voulez, encore une fois, ça ne veut pas dire que je me fais l'avocat de l'interventionnisme débridé, pas du tout. Je dis simplement qu'on est dans une impasse et que malheureusement, il faut très clairement redéfinir une stratégie et penser à des solutions pour apporter du mieux. Ça ne veut pas dire régler le problème sur le long terme, on en est loin, mais essayer d'apporter un peu du mieux.
Nous y reviendrons dans la deuxième partie de l'émission, on l'a compris en tout cas, impasse militariste et nécessité d'un recentrage sur la sphère locale. Ce sera l'occasion dans la deuxième partie de vous demander de quoi il pourrait être question. Géopolitique, nous retrouvons nos invités Myriam Benrad, Jean-François Daguzan et Serge Sûr dans quelques instants. À tout de suite.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Géopolitique, regard sur l'État islamique et la coalition internationale formée il y a tout juste un an pour contrer l'expansion des djihadistes en Syrie et en Irak. Nous retrouvons nos invités, Myriam Benrad, chercheuse spécialiste de l'Irak et du Moyen-Orient au série Sciences Po, à l'Institut de recherche et d'études sur le monde arabe et musulman, ainsi qu'à la Fondation pour la recherche stratégique. Jean-François Daguzan, directeur adjoint de la Fondation pour la recherche stratégique, professeur associé à l'Université Paris-Panthéon-Assas et directeur de la revue Maghreb Mashrek. Et Serge Sûr, directeur du Centre Thucydide d'analyse et recherche en relations internationales et rédacteur en chef de la revue Questions internationales, dont le dernier numéro a précisément pour titre « Les nouveaux espaces du djihadisme, menaces et réactions ». Jean-François Daguzan, on a terminé la première partie de l'émission avec l'intervention de Myriam Benrad qui évoquait l'impasse militariste dans laquelle la coalition, les États-Unis en tête, se trouve aujourd'hui face à la Syrie et à l'Irak et à la nécessité d'un recentrage de la sphère locale. Est-ce que vous partagez ce qui a été dit et quel regard portez-vous sur la stratégie adoptée jusqu'à présent?
Il est évident qu'en terminer avec l'État islamique, c'est envoyer des troupes au sol, réduire ces gens-là qui ne sont en réalité puissants que par la faiblesse des forces qu'ils ont en face. Mais une fois qu'on a énoncé cette vérité première, la question du qui est posée. Des bonnes âmes parlent d'une intervention française, mais je rappellerai que la France gère la question du Sahel, et pas seulement du Mali, mais du Sahel, qui est un espace grand plusieurs fois comme notre pays, et dans lequel les problématiques justement des groupes terroristes, de Daesh désormais, ACMI, Boko Haram qui s'étend comme une tache d'huile désormais sur le Tchad et le Cameroun, et avec d'ailleurs même une question qui a été posée par le ministre Le Drian lui-même il y a quelques mois d'une intervention en Libye. Donc si nous rajoutons la Syrie et l'Irak là-dessus, j'ai bien peur que les capacités françaises qui sont déjà au niveau le plus élevé de tension de l'élastique soient dans l'incapacité de tenir. Alors on participe par l'intervention aérienne et avec des forces spéciales qui contribuent à la formation ici ou là en Irak, mais ça s'arrête là. Après, si vous prenez les grands acteurs, on a dit Arabie Saoudite, de Qatar, arabe, c'est le Yémen qui les préoccupe et essentiellement cette partie-là. Les Égyptiens, qui pourraient être ceux qui interviendraient, parce qu'ils ont l'armée la plus puissante du Moyen-Orient, enfin théoriquement parlant, sont empêtrés dans le Sinaï, et on les voit mal sortir du territoire égyptien dans lequel leur bataille contre les islamistes est engagée. Et puis alors, il nous reste les États-Unis, mais après tout, Barack Obama, lui, il va en reculant des quatre fers, si je peux utiliser cette formule. Il avait été élu pour quitter l'Irak et l'Afghanistan, il l'a fait, ça lui revient comme un boomerang dans la figure, il ne veut absolument pas y remettre les doigts, et aujourd'hui se pose la question des Russes.
De la Russie,
Mais on voit très bien que la Russie, et c'est quand même quelque chose de très clair depuis des années, a une stratégie qui est celle de soutenir le régime de Bachar el-Assad, parce qu'il considère que c'est le rempart contre la progression de cet islam sunnite combattant qu'ils voient, eux, à travers les yeux du Caucase. Et que donc, en bloquant la progression des Daesh et autres différents groupes radicaux, qu'ils soient nationaux ou internationaux, sur le Proche-Orient, c'est, d'une certaine manière, déplacer le front bien en deçà des frontières de la Russie. Et je crois que c'est ça, l'obsession russe. Alors, dire si les Russes proposent une action unilatérale ou une action plus multilatérale, il y a toujours dans l'idée que c'est pour trouver une solution qui permette au régime de Bachar, ou au régime alaouite, en tout cas au régime en place à Damas, de survivre. Et donc évidemment, la négociation qui peut s'articuler dans les jours qui viennent avec les États-Unis, l'Europe et notamment la France, va devoir intégrer ce petit paramètre qui est, si l'on fait quelque chose, il faut le faire dans la mesure où on sauve une partie du régime et ce qui reste d'espace national syrien.
Alors effectivement, on évoque l'idée de la formation par Moscou d'une nouvelle coalition intégrant notamment Bagdad, Téhéran, Riyad et Damas, donc pour lutter contre l'État islamique. Serge Sûr, la marge de manœuvre de Moscou dans ce conflit, elle est très limitée.
Oui, je ne crois pas qu'on puisse vraiment faire fond sur un soutien russe, d'autant plus qu'il y a l'affaire ukrainienne, et que si on ne fait pas de concessions très sérieuses sur ce terrain, eh bien les Russes n'ont absolument aucun intérêt à s'engager auprès des pays occidentaux. Moi, ce que je constate, c'est que la situation est extrêmement flottante, parce que on a la plus grande difficulté dans cette région à identifier les ennemis, les partenaires, que ce soit sur le plan diplomatique, que ce soit sur le plan militaire. Alors, le cas d'Assad est tout à fait caractéristique. Est-ce que c'est un partenaire? Est-ce que c'est un partenaire possible? Est-ce que c'est un ennemi? Est-ce que les ennemis d'Assad sont nos amis? Enfin, on ne sait pas identifier l'ami l'ennemi. Quant à Daesh, on nous dit que c'est l'extrémisme religieux, c'est le salafisme. Mais en réalité, il y a aussi un corps et un cœur sunnite qui provient de l'ancien régime de Saddam Hussein et qui n'a pas grand-chose à voir avec l'extrémisme religieux. Ce sont simplement des résidus, des officiers de l'ancien régime, et ce sont eux qui donnent sa structure militaire à Daesh et qui sont compétents sur le plan militaire. S'y ajoutent les phénomènes de gangstérisme, de corruption, et donc lorsqu'on dit Daesh et le califat, c'est quelque chose qui est une espèce de pureté religieuse absolue, il faudrait beaucoup nuancer ce propos. On a des phénomènes de gangstérisme, des phénomènes de frustration militaire et des phénomènes religieux qui sont associés dans un complexe qui est probablement instable. Et c'est pourquoi je crois que le grand allié des pays occidentaux dans cette affaire, c'est le temps. Et la logique de containment est certainement celle qu'il faut appliquer. En tout cas, c'est la seule, à mon sens, que l'on puisse appliquer. Essayer de contenir le phénomène et faire en sorte qu'au bout d'un certain temps, il se dissolve par lui-même.
Contenez le phénomène, Myriam Benrad, vous partagez. Et peut-être ce sera important de revenir sur la question des ressources, justement, de Daesh. Alors, lutter physiquement, militairement, c'est une chose. Mais là aussi, la CIA évalue entre 1 et 2 millions de dollars par jour les rentrées de Daesh. C'est énorme. C'est peut-être intéressant de voir si, du côté des rouages économiques et financiers, il n'y aurait pas quelque chose à faire.
Évidemment, c'est sur ce terrain-là que l'autre guerre... Ce livre, c'est une guerre sale, c'est ce qui rend effectivement très complexe et quasi, je dirais, caduque les classifications qu'on peut faire, parce qu'en réalité, il y a tout un business aujourd'hui local et régional, voire international, qui se greffe sur cette guerre. Alors au niveau local, la contrebande, les trafics, cette même contrebande qui aussi va à destination d'un certain nombre de pays. On sait par exemple que derrière l'opposition sunnite chiite, Iran-Daesh, Daesh vend du pétrole à l'Iran. Et je le dis très clairement, il y a des camions qui partent depuis le Kurdistan vers l'Iran, donc on sait que tout cela accourt. La Turquie, de la même manière, achète du pétrole à Daesh. Je vais même aller plus loin, la mise en esclavage des femmes, des enfants, se fait au profit d'un certain nombre de réseaux de prostitution et de pédophilie à l'échelle de la région, voire internationale. Le trafic d'antiquités, les Occidentaux ont bon dos de dire finalement qu'il faut lutter contre. C'est depuis 2003 que c'est au trafic à court. Vous trouvez même des antiquités assyriennes, mésopotamiennes sur eBay, encore aujourd'hui. Donc tout le monde a du sang sur les mains, les culpabilités, responsabilités sont partagées. Et je suis tout à fait d'accord avec Serge Sûr, c'est tout cela rend les choses très complexes, parce que évidemment, quand on touche à l'économique et au financier, il n'y a plus vraiment d'alliances, de clivages qui tiennent. C'est du gros business en réalité qui se cache derrière toute cette internationale Daesh. Alors le containment, ça tient pas réellement quand on voit quand même qu'on a des milliers de gens qui maintenant affluent vers l'Europe. Si vous voulez, je comprends la logique derrière le containment, mais je vois simplement que sur un temps très court, ça ne tient pas. Donc j'en reviens à mon idée, il faut militairement apporter du soutien. Les Américains doivent le faire, les forces spéciales américaines, mais c'est déjà en discussion en fait aux États-Unis, doivent armer un certain nombre de combattants sur place, de tribus qui, depuis un an, encore une fois, réclament des armes aux Américains. Ils sont même d'ailleurs partis en délégation à Washington en janvier dernier pour dire à Obama qu'ils n'avaient pas les armes. Donc les Américains savent très bien que le job n'est pas fait par le gouvernement irakien. La CIA, maintenant, est présente de manière très importante à la fois en Irak et en Syrie, ce qui est quand même un signe. Je vais juste dire une chose concernant les Russes. Je pense qu'il y a des discussions très sérieuses entre Américains et Russes. Les Américains et les Russes ont un intérêt commun dans cette lutte. Donc, quels seront les arrangements autour de l'Irak, de la Syrie et de l'Ukraine? Ça, à mon avis, c'est en discussion. Ne soyons pas naïfs. Juste d'ailleurs une chose. Le soutien à Bachar el-Assad, il est tout relatif. S'il y a un deal passé qui consiste à exfiltrer Assad, ils le feront. Et d'ailleurs, c'est déjà en discussion. Il y a des rumeurs qui disent que les Russes, finalement, seraient prêts à négocier quelque chose autour de l'exfiltration d'Assad. Donc, Attention, il y a des intérêts communs. Vous parliez du Caucase, ou c'est Jean-François qui en parlait. Bien sûr qu'il y a le Caucase, mais il y a aussi l'obsession sécuritaire américaine qui va faire qu'à mon avis, il y aura à un moment donné, on peut l'espérer d'ailleurs, convergence avec la partie russe.
Jean-François Déguzan, complicité et hypocrisie internationale autour de Daesh et de tout ce qui se passe en Syrie et en Irak. Vous partagez ce que vient de dire Myriam Benrad?
Oui, et puis en revenant sur la question économique, qui est quand même un problème majeur et une évidence, c'est-à-dire par où passent les trafics. Donc cette question-là que personne ne se pose officiellement est quand même un élément de fond. Jusqu'à preuve du contraire, si des trafics passent, ils passent par la Turquie ou par le Kurdistan irakien. Ce qui veut dire qu'à aucun moment on ne se pose la question de l'interdire de façon significative, parce que les Turcs, quand même, ont les moyens de pouvoir le faire. Donc on est dans cette espèce d'ambiance générale où tout le monde regarde de l'autre côté, alors même que couper les ailes financières de Daesh est une possibilité relativement accessible. Ça, c'est le premier point. Ensuite, évidemment, sur le règlement général du conflit, comme on l'a vu, on a des problématiques contradictoires. Peuvent-elles retrouver un élément d'unification comme le propose Myriam? C'est là que la question va se poser dans les jours qui viennent. Peut-on trouver un plus petit dénominateur commun en négociant un départ d'Assad et un maintien du régime sous une forme ou sous une autre? Et quel va être le point de négociation que les États-Unis, les Russes, les Saoudiens et l'Iran peuvent trouver? Alors que nous sommes quand même tout à fait clairement, et dans le cas de l'Arabie Saoudite et de l'Iran, sur une confrontation de puissance qui est quand même l'autre élément majeur et l'élément nouveau de ces dernières années. La bataille entre la puissance sunnite et la puissance chiite, de ce point de vue-là, a commencé, même si elle est complexe, tordue, difficilement appréciable, vu toutes les entrées qu'elle génère, mais qui est une réalité fondamentale de la puissance régionale aujourd'hui.
Oui. Cette question me vient à l'écoute de ce que vous avez dit les uns et les autres. Finalement, est-ce qu'on se retrouve pas aujourd'hui face à ce dilemme? D'un côté, volonté de détruire Daesh, mais de l'autre, d'une manière ou d'une autre, une intention finalement aussi de laisser vivre l'État islamique.
De le laisser vivre, parce qu'on ne peut pas faire autrement. Mais moi, je rebondirai un petit peu sur ce que disait Jean-François Déguzan à l'instant, mais ce qui complète aussi ce que disait Myriam Benrad. Sur le plan régional, il y a tout de même trois partenaires importants qui sont l'Arabie Saoudite, l'Iran et Israël, dont on n'a pas parlé, parce que le poids d'Israël, notamment sur les États-Unis, est extrêmement fort. Or, les États-Unis, quelle est leur situation? Aujourd'hui, il s'agit pour eux d'avaler l'accord avec l'Iran. Et ça suffit à occuper les milieux politiques, le Congrès, l'administration.
Obama en a fait le point central de son deuxième mandat.
Et ça va durer quelques mois. Ensuite, nous avons cette deuxième dimension, qui est l'élection présidentielle. Et je vois mal que les États-Unis prennent des initiatives publiques, fondamentales, avant l'élection présidentielle.
De novembre 2016. Encore
plus d'un an. Mais nous sommes déjà entrés dans la pré-campagne avec les primaires, etc. Et je ne crois pas qu'Obama souhaite embarrasser les candidats démocrates qui seraient obligés de se situer par rapport à ça dans un cadre d'opinion qui est extrêmement fluctuant et qui, dans l'ensemble, ne s'intéresse pas beaucoup aux relations internationales. Il peut y avoir une diplomatie souterraine, mais cette diplomatie souterraine, elle est contrariée par le fait qu'il y a cette obligation d'élection, et c'est un petit peu la même chose pour la France, puisque nous avons une élection présidentielle en 2017, et que d'ores et déjà, on voit bien que les travaux préparatoires sont commencés, et donc ça limite un petit peu la possibilité de jeu. Donc je crois que le jeu diplomatique souterrain, il existe, il est même, à mon avis, plus important aujourd'hui que la dimension proprement militaire, mais c'est un jeu de poker menteur, et je crois qu'il ne faut pas beaucoup faire confiance aux Russes là-dessus, je ne suis certainement pas anti-russe, et notamment dans l'affaire ukrainienne, ce serait même plutôt pro-russe, mais ne leur faisons aucune confiance pour faciliter la tâche des pays occidentaux au Proche et Moyen-Orient.
Avec un ministre des Affaires étrangères, M. Lavrov, particulièrement aguerri. Myriam Benrad, vous partagez ce que vient de dire Serge Sûr?
Oui, moi je dirais qu'il ne faut pas faire confiance aux Russes, pas faire non plus beaucoup confiance aux Américains, enfin, en tout cas en l'État, personne, là je crois que les choses
sont
claires. Nous sommes
de méfiance alors.
Oui, et puis pour rebondir aussi sur ce que vous disiez quand vous parliez de partenaires régionaux, moi je pense qu'on n'a pas de partenaires dans cette affaire. Absolument. Les choses sont complexes. Effectivement, il n'est pas question d'envoyer une nouvelle mission de combat en Irak ou en Syrie, ce qui serait catastrophique. Mais tout de même, je vais quand même nuancer un peu le propos. Une opération terrestre, encore une fois, ça pourrait être les forces spéciales, médicale. Il faut de toute façon des personnels d'assistance et de reconstruction, parce que à quoi bon bombarder avec tous les coups que ça engendre pour laisser ensuite des villes livrées à elles-mêmes? Parce que Kobané, voilà, champ de ruines, rien, les populations donc doivent fuir puisqu'il n'y a absolument pas d'horizon. Et derrière, l'État islamique revient. Et eux, ça les dérange pas, si vous voulez, de vivre dans les ruines, puisqu'ils sont dans une logique martyrologique. Ils peuvent même camper pendant des mois sur les ruines, ça les dérange pas. Encore une fois, il faut regarder les choses sur le terrain. Au niveau de l'engagement terrestre, oui, il sera limité. Mais si vous voulez, bien sûr qu'il y a cet anti-américanisme, ce réflexe anti-occupation qui est très fort, en tout cas du côté irakien, mais ça peut prendre une forme acceptable. Et là, j'en reviens aux populations. Aujourd'hui, les populations sont dans la rue, à Bagdad, demandent des réformes. La sécurité, l'eau, l'électricité. Ils en sont même plus, si vous voulez, à réclamer la démocratie. À ce stade-là, ils sont dans un état de survie perpétuelle, quotidienne. Ils veulent un peu de mieux. C'est bien pour ça que je dis le mieux, qui ensuite pourra déboucher sur une solution politique. Parce que c'est pareil, quand on dit oui, la solution est politique, ça veut rien dire, ça veut rien dire. Quand des pays entiers sont dévastés, des champs de ruines, ça ne veut rien dire que de parler de solution politique. Il faut aujourd'hui reconstituer un peu d'institutionnel, de normalité, de services de base pour ces populations, pour ensuite repenser l'ensemble de ce que sera cette région. Et encore une fois, ça va prendre beaucoup de temps, mais il faut vraiment arrêter les éléments de langage. Parce qu'on a fait assez de conférences, on a fait assez de rapports, tout le monde a assez pris position sur cette affaire, et au bout d'un an, rien. Moi, je suis chercheuse, j'en appelle au courage aussi des politiques dans cette histoire, parce que je ne vois pas beaucoup de courage, beaucoup de considérations électoralistes, beaucoup de considérations personnelles, beaucoup de mise en avant dans les médias, parce que Daesh Mania, c'est porteur. Et après, je terminerai là-dessus.
Jean-François Daguzin.
Oui, je crois qu'il est important de revenir sur la question israélienne, comme l'a fait Serge Sûr, parce qu'elle est un élément aussi très important de l'équation. Alors, il ne faut pas voir Israël comme étant le deus ex machina du chaos régional, comme les complotistes nous le servent régulièrement, mais en revanche, comme un pays qui a été sidéré par l'évolution à la fois des révolutions arabes et de la situation sur le terrain en Syrie et en Irak, et qui a d'abord, un, mis beaucoup de temps à construire une réflexion, et deux, qui aujourd'hui est sur une position qui est ni vainqueur ni vaincu. Autrement dit, une situation chaotique qui évite l'émergence d'une puissance arabe qui viendrait challenger la puissance israélienne. En revanche, la reconstruction de la puissance égyptienne intéresse au plus haut point les Israéliens. Ça, c'est parce que finalement, c'est le vrai duo historique de l'équilibre de la région. Et là, on voit très bien que Israël, quand il le faut, tape sur l'un ou l'autre des acteurs pour équilibrer le rapport de force. C'est assez intéressant de ce point de vue-là. Et la seule ligne rouge qui existe aujourd'hui pour Israël, c'est la Jordanie. Pas question de toucher à la Jordanie, c'est là où Israël interviendrait militairement, situation que partagent également la Grande-Bretagne, la France et les États-Unis. Il y a une préservation de l'espace jordanien qui est situation aussi d'extrême difficulté, mais pour laquelle on met tous les moyens disponibles. Donc la question israélienne, elle est là, c'est survivre dans un univers hostile tout en essayant de le manipuler.
Merci, c'est là, Serge Sûr, extrêmement rapidement, parce que le temps...
Oui, deux toutes petites observations pour suivre. D'abord, à propos du conflit israélo-palestinien, la question se pose de savoir s'il est central dans toute cette affaire ou s'il est périphérique. Alors, il y a deux thèses, certains le considèrent comme périphérique, moi j'ai tendance à considérer qu'il reste central. Et puis la deuxième observation, c'est que les États-Unis ont subi une perte énorme d'influence et de prestige dans la région après la renonciation à la question des lignes rouges. Lorsqu'Obama n'a pas respecté l'idée qu'on allait frapper si on franchissait la ligne rouge de l'emploi des armes chimiques, ça a été désastreux pour les États-Unis dans la région.
C'est la fin de Géopolitique. Merci à nos invités. Myriam Benrad, chercheuse spécialiste de l'Irak et du Moyen-Orient aux séries Sciences Po, l'IREMAM, et à la Fondation pour la Recherche Stratégique. Jean-François Daguzan, directeur adjoint de la Fondation pour la Recherche Stratégique et directeur de la revue Maghreb Mashrek. Et Serge Sûr, directeur du Centre Thucydide d'analyse et recherche en relations internationales et rédacteur en chef de la revue Question internationale, dont le dernier numéro est précisément dédié au djihadisme sous le titre « Les nouveaux espaces du djihadisme, menaces et réactions ». Vous pouvez retrouver l'émission sur le site internet de RFI, www.rfi.fr, également sur Facebook, Géopolitique, le débat. Émission signée Marie-France Chatin, Nathalie Laporte et Léonora. À demain.